goûts sont dans la nature.
Quand les initiatives prennent vie à la campagne. Bonjour à tous et bienvenue dans Tous les goûts sont dans la nature. Ce mois-ci, je vous emmène découvrir la librairie La Rêverie.
Tous les goûts sont dans la nature.
J'ai toujours aimé les librairies indépendantes avec une vraie personnalité qui reflète souvent celle de son libraire. Alors quand j'ai appris qu'une nouvelle librairie allait ouvrir ses portes à La Châtre, je l'ai attendue avec impatience et curiosité. Avec d'autant plus d'impatience que la princesse s'est fait attendre. Mais c'était pour mieux nous accueillir en ce mois de septembre 2024, et je n'ai pas été déçue. Dès que l'on franchit les portes de La Rêverie, on devine, le sourire aux lèvres, que l'on devrait assez vite y trouver son bonheur. La lumière tamisée et les fauteuils dépareillés mais confortables dans l'espace café font que l'on s'y sent bien tout de suite. Et quand on jette un coup d'œil aux livres sur les étagères bien fournies, on comprend qu'ils ne sont pas là par hasard, mais bien par choix. Ils reflètent les personnalités de nos deux libraires, Jeanne et Emma, engagés, investis et enthousiastes. Alors bien sûr, j'ai eu envie de les rencontrer.
Bonjour Jeanne.
Bonjour Anne.
Alors on est installés dans votre toute nouvelle librairie qui a ouvert ses portes au mois de septembre,
tout à fait.
Autour d'un petit café. Et est-ce que vous pouvez nous présenter le lieu, le décrire ?
Oui, bien sûr. Donc la librairie avec l'espace café fait environ 150 mètres carrés. Donc on rentre par la rue nationale dans un espace où il y a la littérature, le polar, les sciences humaines, science-fiction, etc. Et ensuite on rajoute deux petits espaces littéraires avec la BD d'un côté, BD jeunesse manga, et tout l'espace, on va dire, pour les enfants, 0-13 ans, donc beaucoup d'albums évidemment. Et pour conclure cet espace, on a l'espace dans lequel on est, qui est l'espace café, qui fait, je dirais, une cinquantaine de mètres carrés, à vue de nez, avec des tables et des chaises complètement dépareillées, puisque c'est uniquement de la récupération ou de l'achat de seconde main, où on met à disposition des jeux de société et où on peut boire un café sans être obligé d'acheter du livre. On peut bouquiner sans être obligé de prendre un café. Voilà, c'est un espace de pause, de rencontre, comme je l'avais imaginé. Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais toute seule.
Est-ce que ce lieu, il vous ressemble ? Est-ce qu'il est comme vous venez de le dire, un peu comme vous l'avez imaginé ?
A posteriori, je dirais oui. Après, quand vraiment je me suis lancée dans le projet, je saurais plus dire si vraiment j'imaginais exactement ça. Parce qu'entre-temps, il s'est passé plus de 3 ans et demi. Entre le moment où moi j'ai décidé d'ouvrir cet espace et le moment où j'ai trouvé enfin le local, où les travaux ont commencé, il a fallu pas loin de 3 ans et demi, où je me suis formée aussi. Donc c'est vrai qu'il s'est passé plein de choses en 3 ans et demi, dont le décès de mon papa, et c'est pour ça qu'on a tous ces meubles. C'est parce qu'en fait, j'ai tout récupéré de chez mon papa. Donc je pense que ça n'aurait pas été comme ça 2 ans plus tôt, va-t-on dire. Donc je pense que c'est pas exactement ce à quoi j'imaginais il y a encore 2 ans, mais c'est exactement un lieu qui me ressemble aujourd'hui. Enfin, je pense que je peux pas imaginer meilleur lieu pour travailler tous les jours.
Vous vous y sentez bien, quoi.
Oui, après quand on y passe 14 heures par jour, il vaut mieux. Mais oui, je m'y sens bien. Bah, en fait, je pense que je voulais un lieu comme à la maison. Et au final, alors c'est pour de tristes raisons, mais c'est comme à la maison. Comme dans ma maison d'enfance, avec les meubles de ma maison d'enfance, où mine de rien, je vois mon papa tous les jours autour de sa table. Enfin, donc oui, moi je suis comme à la maison, mais en mieux parce que je le partage tous les jours avec des dizaines de personnes.
C'est un projet que vous portez depuis longtemps, hein, vous ?
Je suis historienne de l'art, donc j'ai toujours été dans des bibliothèques, j'ai toujours été dans des librairies. J'ai toujours aimé ce milieu. Après, je suis pas issue du monde ni de la littérature, ni du monde du livre. Au fond de soi, je crois qu'on a tous un peu envie d'être libraire. Et moi, je l'ai laissé un peu mûrir tranquillement en faisant plein d'autres choses. Et c'est en revenant dans la région que je me suis dit pourquoi pas après différentes péripéties. Normalement, la librairie du Berry devait fermer et c'est pour ça que j'avais lancé ce projet. Bon, c'est pas comme ça que ça se termine, mais on est complètement complémentaires et c'est aussi très chouette d'avoir ces deux lieux à La Châtre, qui est quand même une jolie petite ville. Donc moi, ça fait vraiment tout et pour tout depuis 2021, je dirais. Je pense que septembre 2021, j'ai commencé à réfléchir très sérieusement à ouvrir ce lieu. Et donc on est en 2025. Voilà, ça fait donc quelques années.
Ouais, il a fallu 4 ans pour mûrir, pour construire le projet. Parce que exactement. J'imagine que c'est pas facile à monter, ça se monte pas du jour au lendemain.
Non, la grosse difficulté, je pense, c'est quand même de trouver le lieu. On n'est pas dans une ville où il y a beaucoup d'espaces commerciaux et encore moins de locaux qui correspondent exactement à ce que je voulais. Je voulais vraiment un espace accueillant, je voulais vraiment un coin café où on puisse pas prendre du temps et avoir, enfin, on n'est pas tous entassés les uns sur les autres, enfin, qu'il y ait de l'espace, etc. Et c'est vrai que ça a été difficile. J'ai mis presque un an à trouver le local et ensuite j'ai mis 2 ans de travaux. Donc oui, ça a été long. Ça a été long. Bon, par chance, tout ce temps-là, je n'ai pas fait que attendre. Je me suis formée, j'ai fait des stages, j'ai travaillé en grande surface culturelle. Donc, c'est tout ce temps qui m'a permis aussi de mûrir ce projet pour qu'il soit comme ça aujourd'hui. Je pense que les travaux auraient duré moins longtemps ou j'aurais trouvé le local plus rapidement. Tout serait différent. Alors, peut-être que ça m'irait très bien aussi. Hein. Mais je suis très contente d'avoir pris ce temps. Enfin, il m'a été imposé, mais d'avoir eu ce temps au final. Pour mieux me former, pour rencontrer Emma, pour donner ce cachet à ce lieu. Donc au final...
C'est presque positif.
C'est que du positif. Quand j'ai commencé à me former et qu'on m'a dit pour certaines librairies, il va falloir 2-3 ans pour se monter, je me suis dit non, ce sera jamais moi. Moi, dans 6 mois, c'est fait, on n'en parle plus. Et voilà, je suis de celles qui font augmenter la moyenne. Très clairement, moi, je suis dans la moyenne haute. J'ai pris mon temps. Mais d'accord. Il valait mieux le faire comme ça, je pense.
Parce que c'est pas un projet facile d'ouvrir une librairie. Quand on se renseigne un peu sur le métier, très clairement, ce qui ressort, c'est que c'est pas un métier qui permet de vivre correctement.
Non, c'est un métier passion. Franchement, libraire, c'est... Déjà, le commerce, c'est un métier très ingrat. On peut avoir des moments où il y a beaucoup de monde, où il faut être vraiment à 100% pour les clients... Et puis des moments où il n'y a personne, où ben, on perd un peu le rythme, on se démotive un peu. Enfin, nous, on est ouvert de 10h à 19h, donc c'est 9h non-stop. Il faut imaginer qu'avant et après ouverture, évidemment, il y a du travail de fait. Donc ça fait des grosses amplitudes horaires où on n'a pas toujours du monde, hein, il faut le savoir. Et après, le simple fait d'ouvrir une librairie, c'est une connaissance accrue de tout ce qu'on va proposer. Donc ça prend beaucoup de temps, mine de rien, il faut avoir une connaissance dans tous les livres qui... Voilà, qui nécessite du temps. Pour se former, c'est pas si facile que ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles. Les stages, c'est pas si facile que ça à trouver, parce qu'il n'y a pas beaucoup de librairies indépendantes. Hein. On n'est quand même pas... Enfin, on pullule pas. Hein. Trouver un emploi chez des libraires, alors là, c'est galèrement difficile. Donc c'est vrai que tout ça, pour se former, c'est pas simple. Et après, en effet, il faut imaginer que nous, en tant que librairie indépendante, on va toucher entre 32 et 35% du prix du livre. Donc ça veut dire que c'est 35%, ça nous revient évidemment pas dans la poche, il faut payer toutes les charges, l'électricité, évidemment, le salaire d'Emma, les assurances. Donc mine de rien, ça fait pas beaucoup d'argent à la fin du mois pour le libraire. Ça c'est vrai que c'est, voilà, c'est un métier qui est merveilleux sur plein d'aspects, mais qui est aussi très difficile et très clairement qui paye très mal.
Les choses sont dites.
Oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont.
Alors, comment est-ce que vous avez la possibilité de choisir les livres que vous recevez ? Parce qu'en me promenant dans la librairie, quand même, elle n'est pas neutre, votre librairie.
Non, elle est très engagée, mais on essaie d'en avoir pour tout le monde. C'est-à-dire qu'évidemment, on est deux femmes engagées. On prône l'égalité des sexes, des genres. On prône évidemment le féminisme, parce qu'aujourd'hui encore, on n'est pas complètement égaux. On prône l'amour pour tous, quelle que soit la typologie de l'amour, et on prône toutes ces valeurs égalitaires, quelles qu'elles soient. Donc évidemment, on choisit. On choisit vraiment notre panel. On passera jamais à côté d'un Fuenquinos, on passera jamais à côté d'un Martin Lugan. Tous ces grands noms de la littérature, évidemment, ils font partie de notre offre. Mais à côté de ça, on essaie aussi de proposer des jeunes autrices ou des jeunes auteurs qui sont moins connus, où on va plus s'investir, on va lire leurs livres, on va essayer de les soutenir. Des petites maisons d'édition, pareil, on essaie de travailler beaucoup avec ces gens-là parce qu'ils prennent des risques, très clairement, et que c'est pas non plus facile le métier d'éditeur. Donc, c'est vrai que à peu près tous les deux mois, on va dire, on prend des décisions sur les livres qui vont rentrer dans notre librairie par rapport à un catalogue. On fait rentrer du livre pour que tout le monde puisse s'y retrouver, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des livres pour des femmes, hein. Il y a aussi des livres pour des hommes, il y a des livres pour des enfants, quel que soit le genre, c'est pas la question, mais on fait quand même certains choix, même ne serait-ce que des sujets ou des thèmes abordés sur certains livres qui pourraient questionner, qui pourraient être mal interprétés chez certains. Nous, on les met fièrement en avant. On a un livre qui est écrit par une autrice du coin et qui écrit que de la romance lesbienne. Et en l'occurrence, là, elle a fait une romance homosexuelle avec un homme noir. Et aucune librairie du coin veut l'avoir parce que la couverture, c'est un homme noir. Et nous, on l'a mis très fièrement parce que déjà, le livre est très bien. Sincèrement, il est très, très bien écrit. Cette femme, elle a beaucoup de talent. Et qu'en plus de ça, nous, en fait, ça ne nous dérange pas vraiment qu'il y ait un homme noir sur la couverture. On ne l'avait même pas vu. Donc voilà, c'est sûr que... On est engagé, on n'est pas militante, va-t-on dire, mais on est engagé.
Mais ça se ressent quand on rentre dans votre librairie, mais c'est ça qui est chouette, justement.
Ouais, enfin, on ne s'en cache pas. On n'a pas envie non plus que les hommes fuient cet espace, et en fait, on en a aussi. Mais pour autant, on veut pas perdre ce qui fait de nous les deux femmes qu'on est, en fait. Mmh. Et c'est pas parce qu'on tient un commerce, et qu'évidemment, on doit accueillir tout le monde, qu'on... On doit oublier aussi ce qu'on veut véhiculer. D'ailleurs, c'est un espace où on a reçu des hommes et des femmes transgenres. Et ça nous a beaucoup questionnés sur comment on appelait ces personnes, ils, elles. Est-ce qu'on utilisait le « yel » Enfin, c'est des choses qui nous questionnent, qui nous transcendent. Et en même temps, quand on est face à la situation, c'était merveilleux. Enfin, et ça veut dire que ces gens-là, ils ont confiance en nous, ils viennent sans a priori. Et on évite de faire des impairs, évidemment, mais... Oui, on réussit petit à petit à ce que ce soit vraiment un espace libre où il y a aussi bien des grands-mères qui viennent avec leurs petits-enfants, et qui sont plutôt traditionnalistes, que des personnes toutes tatouées de partout, même du visage, les mains, et qui viennent boire un café tranquille. On arrive à ce que tout ce petit monde se mélange, et en fait, ça se passe très bien.
Votre librairie, elle a été plutôt bien accueillie, alors je pense qu'elle était attendue aussi.
Alors, ça a mis tellement de temps. Il faut complètement assumer le fait que d'avoir mis autant de temps, ça m'a aussi permis de peut-être faire monter un peu l'attente. C'est vrai que ça a été long pour tout le monde, c'est-à-dire que les gens qui étaient au courant du projet, comme moi. Et oui, ça a été très bien accueilli. Le mois d'ouverture, on a eu vraiment beaucoup de monde, comme presque un mois de Noël pour nous. Enfin, ça a été incroyable. Les gens sont venus par curiosité, mais aussi par soutien. Et encore aujourd'hui, on a des habitués qui viennent pour nous soutenir. Parce qu'ils sont contents qu'il y ait cet espace, parce qu'ils veulent que ça se pérennise très sérieusement. Et en fait, c'est que du bonheur. Ouais, on va pas se le cacher.
Alors, votre librairie, c'est un peu plus qu'une librairie. Bon, déjà, il y a tout l'espace café. Il y a des petites choses accrochées au mur. Et puis, il y a régulièrement des rencontres qui s'y passent.
Alors, en effet, au mur, en ce moment, on a des affiches d'Alex Boca, qui est aussi une autrice biographe du coin. Donc, habite pas très loin d'ici. Donc, on a mis en valeur ses textes, qui sont des textes très touchants. Elle est très connue sur les réseaux sociaux, elle est très suivie. Mais dans le coin, elle n'est pas très connue. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment voulu la soutenir. Avant ça, il y avait des illustrations d'auteurs qui avaient en fait envoyé des dessins gratuitement, ou des peintures d'ailleurs, gratuitement, donc à moi en l'occurrence, pour... participer au financement participatif que j'avais mis en place à l'ouverture de la, enfin, avant l'ouverture de la librairie. Donc il y avait toujours ces œuvres qui étaient là. Et oui, c'est un espace qui est très vivant. Donc on a ouvert en septembre. Dès le mois d'octobre, on a organisé un club littéraire. Mais on a aussi un atelier d'écriture qui a été proposé. Vraiment, la personne s'est venue ici, elle a bu un café, elle est venue me voir en disant « Je suis autrice biographe, est-ce que je pourrais faire des clubs d'écriture chez vous ?» Une fois par mois. Donc voilà, on reçoit une fois par mois aussi les Sunflowers, qui, c'est une association qui permet aux femmes qui parlent anglais, puisqu'on a quand même une grosse congrégation, on va dire, hollandaise, anglaise dans le coin. Et elles viennent, elles investissent l'espace parce qu'elles sont souvent une vingtaine. Voilà, elles se sentent ici chez elles et elles peuvent discuter comme ça dans un espace qui les accueille. On a d'ailleurs ouvert un espace littérature anglaise pour elles. On reçoit une fois par semaine, donc là pour le coup c'est le mercredi après-midi, un atelier d'échecs qui est animé pareil par deux retraités qui sont venus et qui nous ont proposé d'animer des ateliers d'échecs. Donc évidemment on a ouvert la librairie, on a acheté des échiquiers pour que... on puisse avoir quand même une vraie offre. Plus ça va et plus il y a du monde. Au début, c'était calme. On était 3, 4, 5. Et là, depuis une semaine et demie, on est plutôt 10, 12. Ça tourne sur toute l'après-midi. Il y a vraiment du monde. C'est très chouette. Donc voilà, on a des séances de signatures et de rencontres avec des auteurs qui vont commencer à partir de début mars. On fait des petites animations ponctuelles à peu près une fois par mois pour les enfants, donc les plus petits, des lectures de contes, des lectures animées, avec des bénévoles qui viennent de l'UDAF36, dans le cadre de Lire et Faire Lire. Donc oui, on essaie de faire pas mal d'animations, que ce soit porté par nous, que ce soit proposé par des gens du coin, que ce soit même de notre fait, c'est-à-dire que c'est nous qui sommes allés chercher des bénévoles, par exemple, de l'UDAF36. Voilà, le but, ce soit que ce soit vraiment un lieu de rencontre où en fait il n'y a pas de frein, c'est-à-dire qu'on peut venir juste boire un café, on peut aussi juste venir jouer aux échecs, on peut juste venir jouer aux jeux de société qu'on a mis à disposition depuis le mois de février. C'était vraiment ça notre but, c'était que cet espace-là, il soit un lieu de rencontre pour tous, et ça fonctionne puisqu'on a vraiment, on va dire, du tout petit qui vient avec les parents, mais on a des petits jeunes, la dernière fois il va avoir une dizaine d'années, ils se sont mis autour de la table, ils ont joué au Skyjo tranquillement, tous les trois, ils ne se connaissaient pas. Mais les parents étaient là et donc ils se sont retrouvés à jouer autour de la table basse. En fait, on a de tout, on a même des ados. Enfin, on pensait pas qu'on réussirait à avoir la cible ado tout de suite, mais on a des ados qui viennent faire leurs devoirs ici. On a vraiment tout le panel. Alors, on a encore du travail à faire en termes de communication, mais on arrive à proposer une offre qui réponde à peu près à tous. De toute façon, je n'imaginais pas la librairie comme un commerce, mais plus comme un espace de vie à l'image d'un tiers-lieu. Je trouve que c'est particulièrement un commerce qui s'y prête. Je pense que dans un espace de culture, si on ne se prête pas au jeu d'ouvrir le livre et la culture à tous, je pense qu'on a raté une partie de l'objectif. Mais c'est ma vision des choses, et surtout c'est ma vision de non-libraire, parce qu'en fait je ne suis pas issue du métier. Moi je suis historienne, et mon métier c'était de valoriser tous les lieux, c'est-à-dire le bâti ancien. Mon but c'était de monter des projets dedans qui puissent les valoriser. Que ce soit touristique, que ce soit culturel, c'était mon but. Donc évidemment que j'ai ce biais-là qui fait que j'ai travaillé pour des musées, j'ai travaillé pour des institutions, des associations, et je me suis dit, je veux prendre un peu du bon de chaque et en faire quelque chose qui me ressemble le plus. Donc c'est devenu une librairie.
En plus, la librairie, c'est un endroit qui s'y prête pour se poser, justement. Puis, votre espace est fait pour ça.
Nous, on laisse cette liberté, en fait, aux gens de pouvoir prendre un livre s'ils ont besoin de se poser, de le bouquiner. Je travaillais dans une grande surface culturelle où il n'y avait aucun espace pour s'asseoir. J'avais des enfants qui se posaient contre les rayonnages et qui lisaient. Et je trouvais ça d'une tristesse en me disant qu'on a besoin de prendre le temps de feuilleter. C'est quand même un objet, le livre. On ne peut pas juste le prendre et partir avec. On a toujours besoin au moins de rentrer un peu dans l'univers et de comprendre si on l'aime, si on ne l'aime pas. Lire les deux premières pages d'un roman pour voir si le style nous plaît. Enfin, il n'y a pas que la quatrième de couverture en fait, qui mérite d'être lue. Et je pense que cet espace-ci, au final, il s'y prête. Les gens sont nombreux à juste venir se poser, ouvrir 2-3 bouquins et se dire « je pars avec cette BD plutôt que celle-ci, ce livre plutôt que celui-là, parce qu'en fait, le style, il me parle pas tant que ça. » Et c'est cet espace-là, en fait, où on peut prendre ce temps, en fait, qui permet aussi la fidélisation, mais aussi la confiance que les gens nous donnent, parce qu'on leur fait confiance en échange. Et ça, c'est... c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu créer, enfin que j'aurais pas pu créer si j'avais pas été mon propre patron.
C'est une liberté, mais c'est aussi un risque.
Les gens viennent souvent en disant on n'est pas une bibliothèque, les enfants, vous touchez pas les livres, ici c'est une librairie, c'est pas la même chose. À quoi on leur dit mais nous, il n'y a pas de problème, vous pouvez bouquiner les livres, mais à une condition, c'est s'ils sont tachés, déchirés, vous repartez avec. Donc charge à vous d'y faire attention. Et en fait, ça permet à tout le monde de prendre la mesure de la confiance qu'on leur fait. Et pour l'instant, alors ça fait que 6 mois bien sûr, mais pour l'instant on n'a eu aucun problème.
L'accès aux livres, c'est aussi... la difficulté d'accéder aux livres, c'est aussi un problème de coût.
Bien sûr. Nous, en tant que libraire, on s'en rend bien compte. Pour certaines personnes, c'est pas possible. C'est pas possible d'acheter régulièrement des livres, même à 10 euros. Il faut imaginer que c'est un vrai coût pour certains. Donc oui, je pense que sincèrement, d'avoir une offre à petit prix, ça peut permettre à ces gens-là de re-rentrer dans la littérature, dans la culture. Et bah pour nous, ça n'a pas de prix. Parce que cette personne-là, en l'occurrence, on l'a fidélisée. Elle viendra toujours chez nous. On écoute ses besoins, on entend ce qu'elle a à dire. On essaie de donner la place à tout le monde. Donc on réussit petit à petit ce qu'on avait l'intention de faire, en tout cas.
Et être connue par ses pairs, ça prend du temps, c'est difficile.
Bon, alors déjà, on est deux femmes. Donc c'est pas très facile. En plus, je pense que c'est plus facile quand on est sur des librairies spécialisées. Nous, on est vraiment une librairie généraliste de province. C'est pas si simple, mais on y travaille. Bon, évidemment, j'ai envoyé un mail à la grande librairie, sait-on jamais un jour. Parce que ça, ce serait une validation aussi. C'est évident, si un jour on reçoit la grande librairie, ça veut dire que des personnes qui sont habituées à recevoir ou à aller voir des librairies se déplacent jusqu'ici. Ce serait non négligeable. Donc c'est autant de choses qui font qu'on se lève tous les jours.
Et le fait justement d'être en province, en pleine campagne, ça a des conséquences sur la vie d'une librairie ?
Oui, on ne propose pas du tout la même offre. On n'a pas le même public que dans une grande ville. Il faut accepter d'avoir une offre qui soit différente. Il y a beaucoup de livres pour nous qui semblent trop pointus ou qui semblent avec un style trop alambiqué. Évidemment, il y a un parti pris idéologique, mais il y a aussi le fait qu'on commence à connaître les personnes qui viennent ici et on se rend bien compte de ce qu'on peut proposer ou de ce qui n'est pas vraiment utile.
Le fait d'être à la campagne vous oblige ou vous incite à faire des choix qui ne seraient pas les mêmes que...
Absolument. Si une librairie parisienne qui serait très pointue sur la littérature. Il y a des choses qu'on ne fait pas.
Pourquoi le nom de la rêverie ?
Aucune idée. j'ai déjà monté pas mal de boîtes, c'est une autre de mes casquettes. J'ai déjà fait beaucoup de choses avant de créer la rêverie. Et en fait, les noms de ce que je crée en règle générale m'arrivent un peu comme ça, comme une sorte d'éclair. Ça me semblait évident qu'on serait dans un lieu où on aurait accès à du rêve, à sortir de son quotidien, à prendre du temps pour soi, à y aller un peu plus mollo dans la vie. J'ai réfléchi à d'autres noms par la suite, c'est-à-dire que la rêverie a été le premier nom qui m'est passé par la tête. J'ai réfléchi à plein d'autres, mais il n'y a que celui-ci dans lequel je me sentais complètement épanouie. Et surtout, j'imaginais qu'il fallait que je le dise 200 fois par jour et que j'assume la charte graphique pendant très longtemps. Donc il fallait que je sois complètement en adéquation avec ça. Et pour moi, il est vrai que tomber, quel que soit l'univers dans lequel on tombe en fait, que ce soit un livre, que ce soit une BD, que ce soit un manga, on tombe dans autre chose, on est aspiré par autre chose. Est-ce que ça va générer ou engendrer des rêves, je sais pas, mais en tout cas, on lâche un peu la pression quotidienne grâce à eux, et ça me semblait un peu comme une évidence.
Pendant que nous discutions avec Jeanne, Emma est arrivée et la librairie a ouvert ses portes.
Bonjour Emma.
Bonjour Anne.
Alors vous travaillez avec Jeanne depuis l'ouverture de la librairie ?
Un petit peu avant même.
Un peu avant ?
Un peu avant. On s'est rencontrés en avril dernier, 2024, si je ne dis pas de bêtises. Moi j'ai été un peu sur un carrefour professionnel, je ne savais plus trop où j'en étais. J'avais plein de projets en tête et c'est une ancienne collègue qui m'a dit « il faut que tu rencontres Jeanne ». Et on s'est croisés en fait à Librairix à Châteauroux où Jeanne faisait un stage professionnel. Et en fait ça a tout de suite été une évidence, je pense. On a les mêmes valeurs, on a les mêmes idées. Et je lui ai envoyé en fait mon CV, ma lettre de motivation dans la foulée, et voilà, ça s'est fait comme ça. À partir d'avril, j'ai commencé à arriver sur le projet. C'était la période où elle travaillait sur le fonds littéraire, et donc du coup, moi, je lui ai apporté toute mon expertise de libraire, parce que c'est vraiment ma formation depuis 10 ans. Et voilà. Et en fait, on était toutes les deux là où on avait besoin d'être, donc quand on s'est rencontrés.
Donc vous travaillez vraiment ensemble, vous répartissez un peu les tâches.
On travaille vraiment ensemble. Jeanne, je pense que c'est une personne sur qui tous les patrons devraient prendre exemple. En fait, elle redéfinit le patronat dans quelque chose de bienveillant, de communautaire en fait, parce qu'elle ne prend aucune décision sans m'en parler. Même des petites décisions, on pourrait se dire bah oui, évidemment. Enfin, non, elle me demande mon avis avant et ça c'est tellement valorisant. Pour plein de raisons et à côté bah moi voilà je lui apporte parce que je pense que Jeanne a dû vous parler de son parcours qu'elle vient de la culture etc donc voilà moi j'apporte toute ma connaissance de libraire tout ce que j'ai pu acquérir sur le fond depuis 10 ans maintenant donc voilà
vous êtes complémentaires
on est complémentaires surtout en fait c'est assez marrant parce qu'on a vraiment les mêmes valeurs les mêmes idées mais par rapport à nos lectures on n'a jamais les mêmes goûts jamais les mêmes avis et au final du coup on brasse un public beaucoup plus large donc c'est drôle et en même temps réjouissant.
Est-ce que vous avez un auteur préféré?
Si je devais en choisir un, je pense que je dirais Andrus Kivirak. Kivirak, c'est ça, c'est un auteur estonien que je trouve formidable. Il a peu écrit, mais à chaque fois, c'est une découverte incroyable, ses livres, surtout les deux qui font partie de l'imaginaire.
Et vous avez des titres?
Il a écrit L'homme qui savait la langue des serpents, qui est son plus connu et qui est peut-être le livre que j'emmènerai sur une île déserte, tellement il y a de thèmes qui sont brassés dedans. Et Les groseilles de novembre, les deux autres qu'il a fait après sont plus confidentiels, sont plus dans le fantastique et moi me plaisent un peu moins, mais entre ce qu'il verra que je trouve que c'est un auteur juste incroyable. Mais il y en a tellement que je pourrais citer. Jean Egland aussi, qui a écrit Dans la forêt, qui là vient de sortir la suite 15 ans plus tard, qui est une femme incroyable. Enfin, c'est dur.
C'est une question trop difficile.
Oui, parce que là je parle que de la littérature, alors que moi je viens de la jeunesse, donc si en plus je devrais parler de littérature jeunesse, on va être là longtemps.
Alors moi, je suis plutôt issue de la BD, donc je dirais Étienne Davodeau, pour son dessin, évidemment, mais surtout parce que c'est un ancien journaliste qui s'est mis à la BD, qui a su se réinventer, et qui évidemment écrit sur des sujets très sociaux, et je trouve que c'est un homme incroyable. En plus, il est d'une gentillesse. Il faut savoir qu'Étienne Davodeau, il m'a envoyé 3 dessins originaux pour le financement participatif, alors que j'y croyais pas du tout. C'est vraiment un homme qui est... C'est absolument incroyable.
Qu'est-ce qui se trouve sur votre table de chevet? Est-ce que vous avez un livre sur votre table de
chevet? Beaucoup de choses, mais en ce moment, il y a une petite panne de lecture. Mais ce matin, je me suis dit que j'allais commencer, parce que ma pile à lire est gigantesque, évidemment, comme tout, pas le libraire, mais bibliovore qui se respecte. Et ce matin, j'avais envie de lire quelque chose de médiéval, et je me suis dit que j'allais commencer du domaine des murmures de Carole Martinez.
C'est un très beau roman.
Voilà, ce matin, m'a paru comme une évidence. J'étais là, c'est toi que je vais lire ce soir, si j'ai le temps.
Et est-ce que vous avez un coup de cœur?
Je dirais, en ce moment, Colère chronique. C'est un polar un peu social, et moi je lis pas beaucoup de polar, donc c'est pour dire. Je me suis régalée du début à la fin. C'est drôle, c'est acerbe. On suit une nana qui va tout simplement tomber dans une sorte de grosse dépression en perdant son travail. Elle était photographe pour un journal, elle perd son travail parce qu'elle coûte trop cher au journal, et en même temps il y a des meurtres au sein même de ce journal, et elle pense que c'est elle qui a un super pouvoir et qui tue ces gens. C'est absolument parfait, enfin, ça fait pas trop peur, mais en même temps on se pose un peu de trop questions. C'est pas mal du tout.
D'accord. En tout cas, ça fait envie.
Oui, bah moi qui aime pas trop le polar, j'avoue que j'y allais un peu avec des pincettes, mais je me suis régalée. Je me suis vraiment régalée.
Merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
Don't hold back.
C'était It's Time de Imagine Dragon, morceau choisi par Jeanne et Emma. Merci à elles deux pour leur accueil et n'hésitez pas à leur rendre visite dans leur librairie à La Châtre. La rêverie est ouverte du mardi au samedi de 10h à 19h. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain en compagnie de Romain.